Pour moi, c'est un énorme plaisir, je dois dire, et je trouve que c'est un très bon choix de commencer par cette conférence d'Evangelia Stead, qui est une grande amie, mais qui est surtout d'abord pour moi ce que je définirais comme une lettrée européenne, à tous les sens du terme, au sens plein. On va parler de l'histoire personnelle d'Evangelia Stead, qui est native de Grèce. Mais voilà, je trouve ça magnifique d'avoir une grecque avec nous pour commencer ce séminaire. Mais Evangelia Stead est professeur de littérature comparée à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Elle a été professeure invitée dans de plusieurs universités en Allemagne, en Italie. Elle est actuellement, je crois, fellow ou invitée au l'Institut d'études avancées de Fribourg, de Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne. Et c'est vraiment quelqu'un qui a énormément travaillé sur la question du livre, de la matérialité du livre, et qui n'est pas resté uniquement à la dimension purement textuelle des livres, mais qui a essayé, à l'époque de la fin de siècle, de mettre en relation le texte avec ses alentours à l'intérieur même du volume matériel du livre et des images. Depuis de très nombreuses années, Evangelia Stead anime un séminaire devenu presque mythique à l'École normale supérieure, le séminaire du Tigre, hein, sur les textes et images, un groupe de recherche extrêmement actif. Et je trouvais très intéressant de commencer ainsi ce séminaire par une réflexion sur les images de nos bibliothèques. Alors, Evangelia a publié de très nombreux livres. Je n'en citerai que deux ou trois, hein, peut-être le plus ancien, je crois que c'était ta thèse, « Le monstre, le singe et le fœtus, hein, tératogonie et décadence dans l'Europe fin de siècle », c'était en 2004 chez Draw. Il y a eu un petit livre tout à fait passionnant chez Gallimard en folio sur l'Odyssée d'Homère. Il y a eu « La chair du livre, matérialité imaginaire et poétique du livre fin de siècle » aux presses universitaires de Paris-Sorbonne en 2012. Et tout récemment, c'était l'an dernier, il y a beaucoup d'autres choses encore, mais il y a cette anthologie de textes sur les araignées, faite avec Sylvie Balestra-Puech, une autre professeure de littérature comparée, qui s'intitule, cette anthologie, « Dans la toile d'Arachnée », anthologie commentée, « Dans la toile d'Arachnée, conte d'amour, de folie et de mort », paru chez Jérôme Millon, donc en 2019. Et aujourd'hui, Evangelia Stead ne parlera pas d'araignée, je crois, mais de Faust. Ça s'intitule, ça n'a pas changé, « Tragédie en bibliothèque, les Faustes monumentaux et le canon ».
Merci William. Je remercie William Marx de cette présentation très généreuse, de cette invitation aussi. Je le rejoins dans son hommage à George Steiner. Et je suis très heureuse d'être parmi vous. Mesdames et messieurs, le Faust I de Goethe est une tragédie de bibliothèque et en bibliothèque. À l'ouverture de la première partie, assis dans son fauteuil, devant son pupitre, un Faust désabusé, déçu de la quête de la connaissance, passe en revue les sciences étudiées, philosophie, droit, médecine, théologie enfin, pour s'exclamer dans la traduction de Jean Malaplate « Et je reste là comme un sot sans avoir avancé d'un mot ». La traduction en quasi-vers de Mirliton rend bien le Knittelvers de l'original. « Da steh ich nun ich arme do und bin so klug als wie zuvor ». La main désordonnée des livres dans ce maudit cachot, les volumes poudreux et vermoulus, le bric-à-brac des boîtes, flacons, instruments, traduisent une tragédie de l'esprit et disent à répétition la faillite du savoir. Ils nous invitent à explorer la bibliothèque faustienne. Non pas tant les livres magiques du docteur Faust, et Dieu sait s'il y en a eu, qui ont beaucoup circulé, et qui sont pour la plupart faux, Mais le Faust de Goethe en objet livre, livre orné et illustré, création symbolique qui prenne en charge un texte canonique. Quelle forme livresque prend cette tragédie de l'esprit, du savoir, de la bibliothèque? Comment cette bibliothèque mentale désespérante se traduit en bibliothèque matérielle? Et que nous disent ces objets livres de notre lecture de Faust? C'est autour de ces questions que va s'articuler mon exposé. En fait, comment lisons-nous ce Faust I de Goethe? Comme un monument de la littérature mondiale, comme une fable universelle, comme un poème représentatif de l'esprit allemand, comme une lecture intemporelle, ou plutôt ne le lisons-nous pas car c'est un classique, une relique pétrifiée que nous connaissons ou que nous pensons connaître? Toutes ces lectures, y compris la non-lecture, sont possibles, même fréquentes, mais aussi empreintes d'idéologie, pleines d'un essentialisme normatif avec lequel la tragédie de Goethe a peu à voir. Je vous propose d'explorer une forme extrême de cet essentialisme normatif. Les Faust monumentaux, à savoir ces livres que de 1852 à la fin des années 1870, ont paradoxalement fait de cette tragédie de l'esprit un livre qui se voulait expressément allemand. Que voyons-nous dans ces objets volumineux en Allemagne, mais aussi lorsqu'ils voyagent et se transforment entre les cultures? Alexander Thiel, à la fin du XIXe siècle, Françoise Faust-Hahn, à la fin des années 1980, et surtout Sébastien Giesen, en 1998, qui s'est appuyé sur des articles d'époque, ont fait valoir que les Faust monumentaux ne sont pas des textes à lire, mais des volumes ostentatoires exposés sur des guéridons de salon et aptes à prendre la poussière. Des livres qu'on n'ouvre pas, des livres qu'on ne lit pas. Leur rôle est plutôt celui de cartes de visite gigantesques. Ils exhibent les identités culturelles de leurs propriétaires et transmettent des représentations cruciales de Faust en tant qu'incarnation de l'expansionnisme allemand. Faust y est montré en héros moderne conquérant, passionné d'action, de gloire et de victoire, plutôt qu'en érudit mélancolique et déçu, dont son trou poussiéreux plein de livres, tel que la tragédie le décrit. Cette nouvelle conception de Faust est bien reflétée, par exemple, dans le point fermé de ce portrait par Wilhelm von Kaulbach en 1841, un calembour d'ailleurs sur le substantif « die Faust », qui signifie en allemand, littéralement, « le point », ou bien dans son bras gauche levé pour embrasser des contrées lointaines, comme dans cette gravure sur acier d'Engelbert Seibert, le concepteur de la première édition monumentale entièrement illustrée de Faust. Ce Faust annonce également une ère nouvelle d'activité. De nouveau représenté par Kaulbach dès 1836 en tant que messie de la nouvelle parole, il montre la Bible faisant face à Méphistophélès qui surgit dans son cabinet comme un étudiant voyageur. Voyons de plus près ces Faust qui imposent une lecture patriotique de la tragédie. L'évaluation que j'ai mentionnée est-elle exclusive? Peut-elle être contestée et comment? Trois éditions monumentales allemandes majeures, par Engelbert Seibert, donc de 1852 à 54, par August von Kreling en 1876 et Alexander Lietzenmeier de 1876 à 77, confirment que ces objets sont des livres obéissant à des présupposés idéologiques puissants. Leur description technique certifie qu'on peut les lire comme des représentations de l'idéologie dominante d'une nouvelle nation qui fonde son canon et son capital littéraire avec le Faust de Goethe en tant que texte allemand, avant tout un texte allemand. Toutes trois sont des éditions somptueuses, volumineuses, conçues avec soin et serties dans des rayures grandioses. Comme le dit Sébastien Giesen, August von Kreling et son beau-père Wilhelm von Kaulbach avaient été impliqués dans des programmes décoratifs de bâtiments importants, Kaulbach dans la résidence de Munich et Kreling dans le Maximilianeum de palais royaux. Je le mentionne parce que ces éditions qu'ils ont mises sur pied sont autant de constructions importantes sous forme de livres. Elles célèbrent, aux côtés des représentations iconographiques sur des bâtiments publics, la nouvelle identité allemande en pleine croissance. Cependant, ces mêmes éditions voyagent toutes hors des frontières et des terres noires germanophones, alors que la dernière, sur laquelle je reviendrai, est issue d'une entreprise germano-américaine. Cette circulation, donc, affecte leur sens et la manière dont on les lit, mais je vous propose de commencer par leurs caractéristiques techniques, leur volume, voire leur poids, qui, comme vous le verrez, est significatif. Le premier paraît en 8 livraisons à Stuttgart et à Tübingen chez Johann Georg Kota, qui détient à l'époque le monopole des classiques allemands. Il est présenté par l'éditeur comme l'œuvre d'une vie de Engelbert Seiberts, peintre de portraits et d'histoire, qui cherche, selon le prospectus, à rendre Faust ce poème reconnu, c'est une citation, sous forme appropriée. Il s'agit de la première édition allemande pleinement illustrée de la tragédie, comme je l'ai dit, sur laquelle a longtemps pesé, il ne faut pas l'oublier, la volonté de Goethe de ne pas accompagner son texte d'images. Cet imposant folio, imprimé sur vélin et sur chine, inclut 13 hors-textes gravés sur acier, 17 grandes gravures sur bois insérées dans le texte, 50 en tête et cul de lampe figuratifs, et pèse plus de 5 kilos. Ni les gravures sur acier ni celles sur bois n'ont été exécutées par Seiberts, mais l'artiste a personnellement veillé à la réalisation la plus exacte de ses conceptions, comme l'affirme une note dans le volume. La rayure en cuir, commercialisée par l'éditeur en 3 couleurs, marron, rouge et vert, inclut Faust II, également publié en livraison. Elle est, comme vous le voyez, richement décorée d'arabesques. Les tranches sont dorées. Il s'agit donc d'un monument, d'un Denkmal plutôt que d'un livre, d'un ouvrage qui rend hommage à Goethe et à la nation. J'y reviendrai. Deux autres Faust concourent pour la première place presque 20 ans plus tard. Le Faust d'August von Kreling, directeur novateur de l'Académie Royal de Nuremberg, illustre les multiples talents de Kreling, de la peinture à la sculpture, en passant par les arts appliqués, le bâtiment et le mobilier. En 36 folios, il est lancé en 1875 par l'éditeur Friedrich Bruckmann à Munich et à Berlin et imprimé à Leipzig par Giesecke et Devrient, imprimeur renommé. L'édition devait comporter 16 hors-textes photographiques reproduisant des peintures de Kreling à l'aide d'une technique photographique de pointe. Il s'agit du procédé Woodberry, qu'on appelle en français la photoglypsie. Mais la mort de l'artiste, en avril 1976, réduisit ce chiffre à seulement 14, accompagné cependant de 80 compositions figuratives ou ornementales gravées sur bois. La rayure en maroquin, comme vous le voyez, est décorée d'un titre en relief, de coins métalliques ornés de têtes de vis saillantes, de 6 médaillons métalliques des personnages principaux, et on peut parfois se demander comment on peut ranger ce livre sur une étagère de bibliothèque. Il pèse 8 kilos et ressemble plus à une forteresse qu'à un livre. Regardons de plus près le troisième, l'édition germano-américaine, publiée par les éditions d'art de Theodor Ströfer, Theodor Ströfer Kunstverlag à Munich en 1876-77. Ce Faust I est interprété par Alexander, ou plutôt Sándor Lietzenmayr, peintre d'origine hongroise, et se lit comme un panégyrique de prouesses techniques détaillées sur la page de titre. Les 50 compositions de Lietzenmayr sont rendues par la gravure ou le bois avec éclat. Comme vous le voyez, 13 de ces hors-textes sont gravés par 5 graveurs différents. Les bois sont dessinés et gravés par un atelier xylographique. Un grand nombre de vignettes de bordures et de lettrines par Rudolf Zeitz ornent ce livre. La rayure, en trois versions, en lin, en cuir ou en parchemin, et en deux variantes chromatiques, comme vous le voyez ici, rouge, noir ou or, ou bien blanc, bleu, or et noir, est signé Auguste Souze, dessinateur et graveur de plaques pour cartonnage polychrome à Paris. La page de titre, par Rudolf Zeitz, réunit un ange et Méphistophélès en Atlante, sous les médaillons de Gretchen et de Faust, et représente tout en bas l'aigle impérial et les armoiries de l'Empire. On ne peut pas être plus explicite. Le nom de l'auteur, absent de cette page de titre historiée, ce qui est paradoxal, est supplanté par une représentation de Francfort, sa ville natale, qu'on aperçoit en arrière-plan. Un tel dispositif consacre non seulement en Faust I le texte qui a rendu Goethe et la nation célèbres, mais aussi Francfort en tant que lieu de naissance historique du mythe de Faust, puisque le Faustbuch anonyme, l'histoire du docteur Johann Faust qui fonde le mythe, a été à l'origine imprimé et mis en vente à Francfort même à la fin du XVIe siècle. La page de titre exemplifie donc un processus d'allégorisation qui imprègne cet ensemble. Le livre est salué comme un exploit technique allemand. Il est présenté comme un livre médiéval moderne dans la presse de l'époque et il est à comprendre comme un amalgame entre le passé et le présent. Il s'agit de retrouver le Faustbuch original, source de tous les Fausts, et de lier le premier siècle de l'imprimerie dont il émane aux dernières innovations techniques en matière de reproduction. L'édition déplace pourtant, et c'est étonnant, le poids de la tragédie de Faust à Marguerite, qui vole la vedette au docteur en luxueux costume moderne, incompatible d'ailleurs avec son statut social, et dans des attitudes qui éveillent la compassion. Or, quoique décoré d'un signe allemand, est-ce un livre allemand ? Il s'agit en fait d'un produit germano-américain qui relève d'un marché internationalisé et rivalise depuis l'étranger avec le Faust précédent, l'édition Bruckmann, conçue par Kraelling. Ströfe avait en effet été le représentant commercial de Bruckmann aux États-Unis avant d'y fonder sa propre affaire et de s'en prendre en quelque sorte à son employeur par le Faust qu'il invente. Le folio majestueux correspond à l'édition conjointe par Ströfe et Kirna d'un Faust paru en livraison entre Munich et New York. L'histoire de l'édition, qui est traditionnellement établie comme d'ailleurs l'histoire de la littérature, William Marx le rappelait à sa leçon inaugurale par pays, ne livre guère d'informations sur cette firme qui a agi entre les pays, mais les livres racontent leur propre histoire. On peut comparer les rares informations disponibles sur quelques coupures de presse et une revue de luxe américaine intitulée The Aldine aux différentes éditions elles-mêmes. C'est un exercice un peu fastidieux, mais les résultats sont parlants. En deux mots, Theodor Ströfer et Georg Kirna, actifs à New York de 1868 à 1876, avaient déjà publié en 1874 un Faust monumental américain, que vous voyez ici, dans la traduction américaine de Bayard Taylor. Ils avaient importé d'Allemagne les gravures sur acier d'Engelbert Seibert, qui portent encore la marque éditoriale de Cotta, mais rejeté la Marguerite de Seibert pour commander à un certain L. Hoffmann de nouvelles compositions, également rejetées, à l'exception d'une seule, Marguerite au rouet, qui est un topos iconographique. C'est alors que Lisenmeyer, à l'époque un artiste peu connu, rejoint l'entreprise avec trois nouvelles planches sur Marguerite. Ce Faust américain de 1874 est déjà donc une édition mixte qui réunit trois artistes, Seibert, Hoffmann et Lisenmeyer. Deux ans plus tard, le Faust monumental de Lisenmeyer et la deuxième entreprise faustienne de Struff et Kirchner centrée sur Marguerite. Elle lance la carrière de Lisenmeyer en Allemagne grâce à l'exposition munichoise de 1876. Et pendant ce temps, les deux associés se séparent. Georg Kirchner, qui devient George Kirchner, reste à Broadway, alors que Struff, son ex-associé, fonde les éditions d'art Theodor Struff à Munich et importe et s'approprie d'une certaine manière ce Faust. Grâce au sens commercial de Struff et à sa perception astucieuse d'un marché international du livre, le Faust de Lisenmeyer a connu un nombre impressionnant d'éditions et de formats dans de nombreux pays et de langues, qu'il serait d'ailleurs trop long de donner ici en détail et qu'il n'est pas toujours aisé de dater. Je vous donne juste quelques exemples. Une deuxième édition allemande apparut peu après. En 1878, ce livre est longuement commenté à Saint-Pétersbourg. Quatre éditions monumentales ont circulé en trois langues, en français, en anglais et en néerlandais, avec plusieurs associations éditoriales, comme vous le voyez, ces associations éditoriales étant de mise pour faire face aux risques et aux coûts de ces entreprises. Et cela a continué par d'autres éditions, dont d'autres formats, dont d'autres langues. Et j'aimerais m'arrêter juste un instant sur une de ces transformations les plus intéressantes, la manière dont ce Faust de Lisenmeyer arrive en Catalogne. Cette édition catalane s'appuie sur une traduction espagnole versifiée par Teodoro Llorente. Le format est plus petit, comme vous le voyez, c'est un in-octavo, mais ce format transplante littéralement le monument allemand dans la collection Bibliotheca de Artes y Letras, qui est un des fleurons de l'esthétisme fin de siècle catalan. Comment interpréter ce livre ? Le cartonnage recto reprend, comme vous le voyez, la page de titre allemande de Rudolf Seitz, Aigle impérial compris, en couleur. On peut supposer que le prestige germanique attire les lecteurs bourgeois espagnols intéressés par les grands textes littéraires étrangers, et que ce livre exporte le grand poème national en habit adéquat. Pourtant, cet étalage de savoir-faire en matière d'art du livre est ici spécifiquement catalan, puisqu'on est dans une collection qui est bien connue pour, justement, dans le contexte de l'esthétisme fin de siècle et qui est depuis longtemps commentée. Cet ouvrage s'accommode de plus de reproductions photomécaniques d'un mélange de compositions de Lisenmeyer issues de deux éditions allemandes différentes, fort différentes entre elles, et d'ornements hétérogènes. Je n'entre pas dans le détail. Sur la couverture verso de ce livre, la devise de l'éditeur qu'on trouve partout dans les livres de cette collection, « Ad Augusta per Angusta », vers les sommets par des chemins étroits, c'est une devise qui fort répandue, qui parle des difficultés du chemin qui mène à la gloire. Cette devise, donc, semble ironique devant cet assemblage hétéroclite. Mais il y a plus. Ce Faust catalan rivalise du triple point de vue littéraire, esthétique et commercial avec la traduction espagnole en prose cette fois de Guillermo English paru 4 ans auparavant, en 1878 à Madrid, dans un format et une ornementation qui copie étroitement, mais sans le dire, le Faust monumental de Kreling. La compétition entre éditeurs et artistes allemands, en l'occurrence Ströfer versus Bruckmann et Litzenmayer versus Kreling, s'exporte à l'étranger et se rejoue cette fois-ci en traduction espagnole avec un nouvel enjeu. Comment traduire Goethe, en vers ou en prose? C'est une question esthétique et littéraire de poids. Le Faust de Litzenmayer a connu par la suite toute une série de pérégrinations, comme vous le voyez, j'ai fait un petit tableau synthétique, et il reviendra aux États-Unis dans une petite édition à large usage, dite Diamond Edition, mais aussi sous forme de 4 volumes luxueux pour la Riverside Press, publié à Boston et à New York, et dans lesquels une petite sélection des planches de Litzenmayer se mêle à d'autres interprétations de Faust. Alors, à quoi bon faire ce voyage et que peut-on dire de ces pérégrinations? Je dirais que chacune de ces métamorphoses, et elles sont nombreuses, propose une lecture différente de Faust et s'adresse à un public parallèle de lecteurs, alors que le texte en traduction se comporte différemment. Ce qui aurait pu être considéré comme de l'expansionnisme allemand recouvre une série de transformations. Aucune édition en folio ne comporte une introduction ou un commentaire. Le nom même de Goethe semble superflu dans les grands formats. On nomme couramment ces livres d'après l'artiste qui les prit en charge, comme je l'ai fait, et non pas d'après l'auteur. Le Faust germano-américain de Litzenmayer se révèle être une multitude de Faust, bien loin de l'ambition d'un poème national consacré. L'épouse de Litzenmayer, c'est un détail amusant, était américaine, mais elle a servi à répétition de modèle à la Gretchen allemande. La circulation de ce livre commence entre les États-Unis et l'Allemagne, traverse l'Europe et retourne aux États-Unis. Il devient difficile de prouver que son ADN est authentiquement allemand. Le Faust d'August von Kreling adapte aussi la tragédie et son iconographie selon le pays et la langue. Par exemple, en Suède et en Grèce. L'édition suédoise n'est pas aussi imposante que l'original allemand, mais elle reste importante, surtout par sa rayure rouge et dorée, inspirée du cartonnage commercial qui avait servi pour le quarto allemand que vous avez à gauche. L'édition suédoise est sur la droite. Sur le premier plan, le médaillon supérieur montre Marguerite avec sa quenouille. Le médaillon inférieur, un diable ailé qui apporte la cassette des bijoux. Le texte, en large caractère sans empattement, est bien plus lisible que la typographie gothique des éditions arachnéennes, des éditions allemandes, qui est, elle, plutôt arachnéenne, mais l'ordre et le choix des planches ont subi des modifications substantielles. Le double frontispice, par exemple, de ce livre réunit le destin tragique de Marguerite, une planche qui se trouve à l'origine à la fin de la tragédie, et le songe de Faust, qui correspond à la fin d'une des scènes du cabinet du docteur, et résume donc ce double frontispice, chose d'ailleurs assez exceptionnelle, puisque normalement le frontispice est un et non pas double. Donc, résume Faust ainsi, la jeune héroïne est condamnée et le docteur est tenté. Plusieurs des grandes compositions, y compris les planches pathétiques, ont été écartées de ce volume, ou bien elles ont été transformées en reproductions photomécaniques, in text, ce qui modifie leur valeur et leur portée. Par exemple, l'arrivée des sorcières au sabbat, qui est une planche, normalement une in text, donc une gravure sur bois, est devenue une image hors texte qui ressort considérablement entre les cahiers typographiques. Plus étonnant encore, l'intermède de la nuit de Valpurgis, un passage qui est souvent difficile à comprendre, est purement et simplement supprimé, à l'exception, cependant, de son titre que vous avez ici. Sous une tête de méduse à l'antique tout en haut de la page, qui renvoie, elle, de manière cryptée, à l'apparition de Marguerite décapitée au sabbat et au propos de Méphistophélès qui cherche à détourner Faust de cette apparition, la page produit en effet, à présent, un effet énigmatique et à point nommé médusant. Si l'intention était d'aplanir les difficultés, l'énigme s'en trouve renforcée. L'édition grecque, parue en cette livraison en 1887, conserve les planches photographiées d'origine appliquées sur un papier cartonné, bien que le format soit moindre. Édité par Carlos Beck à Athènes, le livre est cependant imprimé à Leipzig par Drugulin et son cartonnage est également fabriqué à Leipzig. Les couvertures des livraisons que vous voyez ici était cependant imprimé à Athènes par l'officine typographique d'un certain N. Iglesis qui était rattaché à la cour royale. Ce détail technique, cette double origine typographique, se trouve du coup lié à l'histoire moderne du pays et rappelle les origines germano-danoises de la famille royale rattachée à la Grèce moderne. La traduction emploie deux niveaux de grec, le grec puriste ou katharivoussa pour les parties principales et le grec démotique, plus courant et plus populaire, pour les chansons ou pour le dialogue de Méphistophélès avec la sorcière. On peut mettre ce choix linguistique en parallèle avec le choix des moyens de reproduction et penser que les reproductions photographiques luxueuses qui sont considérées comme plus nobles s'associe à la katharivoussa, alors que les gravures sur bois plus petites, comme vous le voyez ici, et insérées dans le texte, sont moins nobles, comme le grec démotique. Dans ce cas, plusieurs éléments du livre prennent sens par rapport à l'histoire nationale et locale, bien plus qu'ils ne reflètent un expansionnisme allemand. On pourrait bien entendu faire valoir que pareils accidents et changements sont communs à tous les livres qui voyagent en dehors de leur contexte d'origine. Mais un examen plus attentif des Faust de Seibert et de Kreling en Allemagne même est révélateur, je crois. Ces deux Faust peuvent sembler authentiquement allemands, représentant un héros allemand et célébrant des prouesses techniques accomplies en Allemagne, en réalité importées ou imitées, mais peu importe, l'Allemagne n'est pas le seul pays qui importe des techniques inventées ailleurs. Disons qu'une grande œuvre en tenue technique somptueuse peut bien entendu autoriser l'estime de soi, voire la fierté nationale. Ces livres se lisent pourtant de multiples façons. Ce sont en effet des œuvres multimédiales, avant l'heure et avant le terme. J'aimerais proposer deux précisions. Tout d'abord, les moyens techniques employés sont à interpréter selon une hiérarchie de valeurs. Il est par exemple d'usage de considérer que les hors-textes gravures sur acier, sur cuivre, les burins, les photographies, les photoglypsies, etc., sont plus nobles que les gravures sur bois imprimées dans le texte et avec lui. Il est de même d'usage de considérer que les grandes planches ont plus de valeur que les petits ornements, etc. Les éditeurs ont donc appliqué cette échelle de valeur héritée à ces éditions coûteuses, mais les artistes ne les ont pas nécessairement suivies dans une période de grand bouleversement des valeurs au sein des arts, les arts graphiques en particulier réclamant un statut d'égalité avec la peinture de chevalet, la peinture de genre ou d'histoire. Une telle rupture esthétique marqua à l'époque un tournant en Europe et dans le contexte germanophone, elle a été fermement établie par Max Klinger dans son éloge du Griffelkunst, qui était à la fois l'art du stylet et de la griffe, double sens de Griffel, dans son essai Peinture et dessin, Malerei und Zeichnung, qui a été plusieurs fois réédité et lu par de nombreux artistes. Cet art, à la fois du stylet et de la griffe, accorde au dessin et aux arts graphiques plus généralement une valeur artistique et esthétique à part entière, et évidemment, ces éléments sont parlants dans les Faust. Deuxième point, il est fréquent que les séquences iconographiques dans les livres du XIXe siècle dépendent des moments d'action clés et s'articulent autour des scènes les plus dramatisées. La peinture d'histoire et plus tard les représentations théâtrales ont pesé sur Faust, vous vous en doutez. Lire donc la pièce à travers les planches d'apparat établit une trame linéaire continue, ponctuée de moments émouvants, surtout dans la deuxième partie de la tragédie, lorsque on a affaire à l'histoire de Gretchen. Cependant, lorsque les bandeaux, les culs de lampe, les bordures, les ornements, les initiales ornés ou historiés, les illustrations in texte et une abondante iconographie se déployant page après page dans un éventail de styles, arabesques, allégories, dessins au trait, mode, costume historique ou non, etc. Lorsque donc toute cette iconographie envahit le livre, on se trouve devant plusieurs récits parallèles et pas nécessairement en séquence linéaire ou continue. La compréhension des cépages variés n'est ni prévisible ni une. En fonction de son éducation, de sa réactivité ou de sa sensibilité, le lecteur peut valoriser telle plutôt que telle autre représentation. Des images synthétiques peuvent perturber ou contredire sa lecture du texte et l'inviter à lire à rebours en sautant des passages, en picorant. Des détails peuvent acquérir un rôle important et le détail, comme on sait, c'est le diable. Considérez donc que les éditions d'apparat allemandes sont invariablement des monuments de la littérature allemande, peut fausser leur identité complexe. Et le fait est qu'elles ont été lues en privilégiant les hors-textes qui représente donc Faust comme héros, en négligeant le reste. Dans une étude sur le Faust de Seiberts, publiée en 2002, j'ai montré que ce livre contient deux protagonistes. L'un est Faust, le héros national, associé aux gravures sur acier que vous voyez ici. L'autre, en particulier dans les gravures sur bois et les arabesques, est Méphistophélès. L'arabesque, cet ornement désordonné de lignes entrelacées qui peut aisément engendrer les hybrides et les monstres, était en vogue en Allemagne au tout début du XIXe siècle. Nepomucène Strixner avait diffusé dès 1808, grâce à la lithographie, comme vous le voyez ici, les arabesques marginales, les célèbres Randzeichnungen d'Albert Dürer au livre de prière de l'empereur Maximilien I. Vous avez deux exemples d'un ouvrage qui est beaucoup plus long, plus diffus, très intéressant. L'arabesque a été répétitivement employée dans l'iconographie de Faust. La page de titre de Seiberts représente Méphistophélès dans la cuisine de la sorcière, comme le montre l'instrument qu'il tient à la main, un éventail soufflé pour attiser le feu. C'est une gravure sur bois. Le frontispice, de nouveau une gravure sur bois, le montre en train de chuchoter la pièce elle-même devant le poète, hein, à l'oreille de Goethe, inspiré. Et en bas, à gauche de cette représentation, ici, Seibert s'est représenté lui-même agenouillé en adoration devant le poète. Adoration moqueuse cependant, puisque son attitude est imitée du côté opposé par le singe et la guenon qui paradent avec Méphistophélès, précisément dans la scène de la cuisine de la sorcière. Le motif répond à un principe artistique complexe, ars simia naturae, donc l'art qui imite la nature, en l'occurrence le peintre qui imite l'œuvre du poète, n'est-ce pas, poète représenté sous forme physique devant ses yeux, mais en même temps, ars simia naturae signifie littéralement l'art qui singe la nature, qui s'en moque donc, qui limite, qui s'en moque, qui la dénature, ce qui hypothèque l'adoration. Il s'agit, au fond, d'un commentaire malicieux sur le livre par l'artiste. En écho, les abondantes arabesques du cartonnage font de Méphistophélès le personnage principal de la pièce accompagnée des singes, tandis que Faust, assis dans son étude, est contraint par sa propre initiale, comme dans un point, un autre calembour graphique. Seibert a largement utilisé les arabesques dans les gravures sur bois qui impliquent la tentation, le désir charnel ou le péché, par exemple dans son interprétation de la scène de la fontaine, où l'arabesque attire l'œil jusqu'au fœtus placé sous le lys, en minant justement le paradigme virginal. Il a aussi employé l'arabesque pour revisiter les gravures sur acier. Les arabesques portent un sens complémentaire, fondé sur le rêve, le désir, l'érotisme ou l'homosexualité, très éloigné de la représentation idéale du héros national, comme lorsque Méphistophélès berce Faust d'illusions. La partie supérieure de la composition est prise par des arabesques élaborées où se cachent des scènes suggestives. Des documents d'archives publiés depuis par Sébastien Giesen montrent que l'éditeur Cota a insisté auprès de l'artiste pour atténuer l'expression audacieuse de son imagination afin de respecter les bienséances. Cota y a réussi, d'où la lecture du volume comme un monument national. Mais il n'a pas triomphé de Seibert, puisque une deuxième lecture contradictoire de cette édition est possible. Seibert représente Marguerite dans le livre comme une jeune fille pieuse, robuste et nubile, descendant les marches de l'église, son livre de prière à la main. L'image même du sérieux, de la simplicité et de la perfection qui avait rebuté en 1874 Struff et Kierna, qui avaient rejeté ses planches. Voici cependant un dessin préparatoire que j'ai découvert à Francfort. Seibert représente Marguerite comme une prostituée, vêtue d'un négligé provoquant, devant sa table de toilette, en train de se préparer pour le client suivant, alors qu'à l'arrière-plan, un lit en désordre en dit long. À son tour, Kreling utilise abondamment des arabesques dans son Faust, mais modernise une iconographie traditionnellement médiévale. Dans cette scène d'ouverture qui accompagne le prélude sur le théâtre, Goethe, entre le directeur de théâtre et le bouffon, est encore en train de composer, pendant que les acteurs en costume entrent en scène en répétant leur rôle. Au-delà du rideau, la salle se remplit de spectateurs, la pièce est sur le point de commencer. Ce dessin, qui tient de la mise en abîme, répond à une conception très sophistiquée du texte, pensée par Goethe comme une pièce dans la pièce, une dimension justement que les lectures nationalistes ou idéologiques ont aplatie. Plus encore, les Faust de Kreling et de Seibert ont engendré une série d'objets subsidiaires. Cotta a publié, comme vous le voyez ici, une édition sténographiée du Faust de Seibert, peut-être un livre destiné à des exercices sténographiques. Les aspects mystérieux ou diaboliques de la pièce sont mis en valeur par l'association des abréviations sténographiques avec les scènes surnaturelles. Enfin, avant de commercialiser l'édition monumentale de Krehlin en 1876, Bruckmann a lancé une petite édition pour dames, dite Kabinettausgabe. En cuir rouge, richement décoré de symboles alchimiques, le livre est en fait une petite boîte adroitement pensée dont les rabats abaissés révèlent les futures planches photographiques sous forme de cartes. Cet objet, qui relève d'un marketing astucieux et annonce l'édition monumentale que vous souhaiterez acquérir, n'est-ce pas, est un réceptacle présenté par l'éditeur comme un cadeau d'étrenne. C'est surtout un objet tentant qui, selon l'imaginaire de la tragédie, synthétise le coffret de bijoux caché par le diable dans la chambre de Marguerite pour l'inciter au désir et au désastre, et les tentatives magiques du docteur Faust lui-même. En acquérant cette édition, chacun de nous peut s'associer soit à Marguerite, soit à Faust. La littérature comparée ouvre de vastes perspectives dans la lecture de textes. Lorsqu'on l'associe à la culture matérielle de l'imprimé et à ses multiples transformations, comme j'ai essayé de le faire, on peut interroger à la fois la bibliothèque matérielle et la bibliothèque mentale. Nous ne lisons aucun livre innocemment lorsque nous le lisons entre les cultures et les langues, William Marx l'a rappelé. Mais nous ne lisons non plus aucun livre indépendamment de la forme physique qui est la sienne, surtout lorsque cette forme est investie d'une intention idéologique forte. Les Faust monumentaux ont bien sûr été des produits et produits pour eux-mêmes, mais ils ont également engendré des objets-livres variés, induisant des lectures différentielles pour différents publics. Ils sont eux-mêmes, malgré leur aspect monumental, des livres complexes qui renferment plus d'un Faust. La circulation des livres et des estampes, les produits subsidiaires, les importations et les exportations autour de ces éditions contribuent à diversifier leur portée et leur signification. Transfert, échange et circulation renforcent le changement de sens, élargissent les objectifs de la pièce et notre propre perception d'elle. Ces livres ostentatoires sont-ils encore des objets poussiéreux parqués sur des tables basses de salon et qu'on n'ouvre jamais ? On est plutôt devant une gamme variée de livres, une vaste bibliothèque culturelle. Elle contribue à l'aura de Faust de Goethe en soulignant ses nombreuses significations et ses ambiguïtés, et bien entendu en multipliant ses lectures. Merci de votre bonne attention.